Chapitre 4. Une maison païenne. Pendant que la scène que nous venons de décrire se passait, une scène bien différente avait lieu dans une maison située entre le Quirinal et l'Esquilin. C'était celle de Fabius, de l'ordre des chevaliers, dont la famille avait acquis d'immenses richesses en affermant les revenus des provinces d'Asie. Sa maison était plus grande et plus belle encore que celle dont nous venons de sortir. Elle possédait un troisième péristyle, ou cour, entouré d'immenses appartements. Les richesses de l'art européen s'y mêlaient aux plus rares productions de l'Orient. Les tapis de Perse étaient étendus sur le sol, les meubles étaient couverts de soie de Chine, des étoffes de Babylone aux couleurs bigarrées, et les broderies d'or de l'Inde et de la Phrygie étaient répandues avec profusion. On voyait, çà et là, de curieux objets d'ivoire et de métal, attribué aux habitants des îles situées au-delà de l'océan Indien, auxquels on prêtait une fabuleuse origine et une forme monstrueuse. Fabius, le propriétaire de toutes ces richesses, était le véritable type de ces Romains qui cherchaient avant tout une existence large et facile et qui n'assignaient qu'un but à la vie, la jouissance. Il n'avait jamais eu d'autre idéal, il ne croyait à rien. Mais comme il adorait chacune des divinités de l'Olympe, quand venait son tour, il passait pour être homme de bien, comme pouvaient l'être ses voisins, et personne n'avait le droit de lui en demander davantage. La plus grande partie de ses journées s'écoulait dans un de ces bains qui avait pour annexe des dépendances qui répondaient à ce que sont aujourd'hui les clubs, les salles de lecture, les salles de jeu, les gymnases et les jeux de paume. Là, il prenait son bain, puis causait avec des amis, apprenait les nouvelles, et les heures s'envolaient ainsi. Quelquefois, il se rendait au forum pour entendre parler un orateur ou plaider un avocat, ou bien il se promenait au milieu de ces jardins publics où toute la grande société de Rome se réunissait. Il revenait ensuite chez lui, où l'attendait un souper fin, à l'heure même de nos dîners actuels. Là, il retrouvait ses hôtes du jour, soit qu'il les eût invités d'avance ou qu'il les eût recrutés dans la journée même, parmi les parasites, affriandés par la bonne chère. Chez lui, Fabius était un maître bon et indulgent. De nombreux esclaves le servaient, et pourvu que la chair fût délicate, son palais soigneusement entretenu, il laissait aller les choses et abandonnait à ses affranchis la direction de ses affaires domestiques. Ce n'est pas près de Fabius, cependant, que nous désirons introduire le lecteur, mais près de sa fille, la seule héritière de ses immenses richesses. Selon l'usage de Rome, elle porte le nom de son père, adouci cependant par un diminutif, on l'appelle Fabiola. Comme nous avons fait plus haut, nous allons conduire le lecteur dans l'appartement de la jeune fille. Un escalier de marbre y mène de la seconde cour, sur les côtés de laquelle se déploie une longue suite de salles ouvrant sur une terrasse rafraîchie et décorée par une fontaine aux eaux murmurantes et couverte des plantes exotiques les plus rares. Dans cette salle, on a réuni les créations les plus précieuses et les plus exquises de l'art antique et de l'art étranger. On voit qu'un goût délicat et raffiné a présidé à l'ornementation de ces lieux. En ce moment, l'heure du repas du soir va arriver et nous apercevons la maîtresse de ce logis qui se prépare pour paraître devant ses hôtes dans toute sa beauté. Elle est étendue sur une couche, œuvre de l'art attique, incrustée d'argent, au milieu d'une chambre à la mode de Perse, dont les fenêtres qui descendent jusqu'au plancher s'ouvrent sur la terrasse en fleurs. À la muraille opposée est suspendu un miroir d'argent poli, assez grand pour refléter une personne en pied. Une table de porphyre, placée à ses côtés, supporte une quantité innombrable de ces cosmétiques et de ces parfums que les dames romaines employaient à profusion et pour lesquels elles dépensaient des sommes immenses. Sur une autre table de bois de santal, venue de l'Inde, se déploie une profusion de bijoux et de bagatelles coûteuses dans leurs riches coffrets, afin que la jeune fille puisse choisir sa parure du jour. Nous n'avons pas l'intention de décrire l'extérieur et le physique des personnages que nous mettons en scène. Nous désirons plutôt étudier leur esprit et leur caractère. Nous nous contenterons de dire que Fabiola, alors âgée de 20 ans, n'était inférieure en beauté à aucune femme de son rang et de son âge, et que de nombreux patriciens aspiraient à sa main. Son caractère formait un profond contraste avec celui de son père. Fière, hautaine, impérieuse et colère, elle régnait en impératrice sur tous ceux qui l'entouraient, à une ou deux exceptions près, et exigeait d'humbles hommages de tous ceux qui approchaient d'elle. Fille unique d'une mère morte en lui donnant le jour, chérie par un père insouciant et bon, elle avait été instruite dans les arts d'agrément par les meilleurs maîtres, qui n'avaient rien omis de ce qui pouvait faire d'elle une personne accomplie, et, habituée à voir ses caprices les plus extravagants obéis, elle ne savait pas ce que c'était que résister à un désir. Livrée à elle-même, elle avait beaucoup lu, surtout les œuvres des philosophes. Elle était devenue elle-même une sorte de philosophe, professant les idées de la secte la plus raffinée de l'épicurisme, qui longtemps avait été répandue à Rome dans le meilleur monde. Elle ne connaissait le christianisme que de nom et le regardait comme une superstition grossière, convenant seulement aux personnes vulgaires et dénuées d'éducation. Elle le méprisait trop pour penser à l'étudier. Quant au paganisme, avec ses dieux, ses vices, ses fables et son idolâtrie, elle le dédaignait au fond, quoiqu'elle l'observât extérieurement. Elle croyait seulement à la vie présente et songeait à la remplir le plus agréablement du monde. Mais sa fierté protégeait sa vertu. Elle avait en horreur les vices de la société païenne. Elle méprisait les jeunes patriciens qui, chaque jour, venaient en grand nombre lui apporter leur hommage et les considérer comme des insensés dont les folies la distrayaient. Fabiola était regardée par tous comme une personne froide et égoïste, mais on la respectait car sa conduite demeurait irréprochable. Si, au début de ce récit, le lecteur nous accuse de nous attarder dans de longues descriptions, nous lui ferons remarquer que nous voulons l'initier à ce qu'était la vie matérielle et sensuelle à Rome au moment où s'ouvre cette histoire. S'il nous reproche de lui décrire les monuments de l'art antique en parlant d'une époque de décadence, nous lui rappellerons que l'année où nous lui faisons visiter Rome n'est pas aussi éloignée d'une grande période artistique, du siècle des Antonins par exemple, que nous le sommes du temps de Raphaël, de Cellini ou de Donatella. Et cependant, on voit encore en Italie, dans beaucoup de palais, les œuvres de ces grands artistes dont le génie n'a pas eu de nombreux héritiers. Il en était ainsi dans la Rome païenne, et l'on trouvait dans les maisons patriciennes les chefs-d'œuvre de l'art antique, même au siècle de la décadence. Revenons à Fabiola, étendue sur sa couche et tenant dans sa main droite un miroir d'argent avec une poignée du même métal, tandis qu'elle porte dans l'autre un instrument étrange pour une jeune et belle patricienne. C'est un stylet tranchant et aigu dont le manche est en ivoire curieusement sculpté. À l'extrémité de ce manche, on voit un anneau d'or destiné à tenir le stylet. Ce stylet était l'arme favorite que les dames romaines employaient pour punir leurs esclaves ou pour dépenser sur ces créatures malheureuses leur colère ou leur vengeance excitée par d'autres. Trois femmes sont en ce moment occupées autour de leur jeune maîtresse. Elles appartiennent toutes trois à des races différentes et ont été achetées à grand prix, non seulement à cause de leur extérieur, mais pour les rares qualités qu'elles possèdent. La première est une esclave noire. Elle n'appartient pas à la race nègre, cependant, mais à une de ces races privilégiées, telles que les Abyssins et les Numides, qui ont les traits aussi réguliers que les peuples d'Asie. Elle est très versée dans la connaissance des herbes et des plantes. Elle connaît leurs propriétés et compose des cosmétiques incomparables, aussi bien que des filtres, des charmes et peut-être aussi des poisons. On la désigne ordinairement sous le nom de sa contrée, on l'appelle Afra. La seconde esclave est une grecque, recherchée pour son goût exquis et pour la pureté de son accent. Son nom est Gréca. Le nom que porte la troisième esclave, Syra, nous annonce qu'elle vient d'Asie. Elle brode admirablement et c'est une infatigable ouvrière. Elle est calme, silencieuse et complètement absorbée par son labeur. Les autres, au contraire, sont vives, bruyantes et se vantent beaucoup du peu qu'elles font. À chaque instant, elles adressent à leur jeune maîtresse les flatteries les plus extravagantes, ou bien encore, elles cherchent à favoriser la poursuite de celui des prétendants dont la main s'est ouverte le plus largement en leur faveur, ou s'est ouverte la dernière. Que je serais heureuse, ma noble maîtresse, disait l'esclave noire, si je pouvais être ce soir dans le triclinium quand vous y entrerez, pour jouir de l'effet brillant que produira sur vos hôtes éblouis le nouveau stibium. Que d'essais infructueux j'ai dû tenter avant de l'obtenir aussi parfait. Je suis sûre qu'il n'y a rien de pareil dans tout Rome. Pour moi, interrompit la grecque rusée, je n'aspire pas à un tel honneur. Je serais satisfaite si, en regardant à travers la porte, je pouvais jouir de l'effet magnifique de cette merveilleuse tunique de soie qui vient d'Asie avec le dernier envoi d'or. Rien n'est égal à sa beauté, je puis ajouter à son ornementation, qui est le résultat de mes études, digne de ce bel objet. Et vous, sirah, reprit la jeune patricienne avec un orgueilleux sourire, quel serait votre désir et qu'avez-vous fait pour mériter des louanges? Je ne désire qu'une chose, votre bonheur constant, ma noble maîtresse. Je n'ai rien fait qui mérite vos éloges, puisque j'ai simplement rempli mon devoir. Cette réponse ne plut pas à l'impérieuse Fabiola. Il me semble, dit-elle, que vous vous montrez avare de louanges. Il est rare qu'une parole aimable s'échappe de vos lèvres. Et quel prix mes louanges auraient-elles pour une si noble dame, habituée à recevoir chaque jour les compliments les plus raffinés sortis des lèvres les plus éloquentes, reprit sirah. Je ne suis qu'une humble esclave. Estimeriez-vous des éloges venus de si bas? Et au contraire, ne les mépriseriez-vous pas? Les deux compagnes de sirah lui jetèrent un regard de dépit. Fabiola était vivement blessée de ce qu'elle appelait une censure, en même temps qu'un sentiment élevé chez une créature aussi méprisable qu'une esclave. « Ai-je besoin de vous répéter encore ? » s'écria-t-elle avec hauteur. « Que vous êtes ma propriété, mon bien, que je vous ai acheté à un haut prix, pour me servir comme bon me semblerait ? Je peux aussi bien exiger la louange de votre parole que le service de vos bras ? Et s'il me plaît d'être flatté et célébré par vous, vous devez le faire, que vous le vouliez ou non. Voilà une nouvelle idée, en vérité, qu'une esclave dont la volonté différerait de celle de sa maîtresse, quand sa vie même est entre nos mains. Vous dites vrai, ma noble maîtresse, répliqua l'esclave, avec une modestie pleine de dignité. Ma vie et tout ce qui dépend de cette vie est votre bien. Mon temps, ma santé, ma force, le souffle même qui m'anime, vous appartiennent. Vous avez acheté ces biens à prix d'or, vous les possédez. Mais il me reste un bien que toutes les richesses des empereurs mêmes ne pourraient acheter et que les chaînes de l'esclavage ne sauraient retenir captif et qui, au-delà de cette vie, survivra à la mort même. « Et quel est ce trésor ?» demanda Fabiola. « Une âme. » « Une âme ?» répéta avec étonnement Fabiola, qui n'avait jamais pensé qu'une esclave pût songer à revendiquer un bien si précieux. « Et que voulez-vous dire par ce mot ?»« Je ne puis pas me lancer dans des théories philosophiques, répondit la servante, mais il y a en moi un principe de vie intérieure, à jamais garanti de toute destruction, et que la maladie et la mort n'atteindront jamais. » Ce principe immortel me fait pressentir une existence meilleure que la vie de ce monde. Alors, le mensonge et la flatterie seront également détestés. Tant que je posséderai ce don inestimable, aussi longtemps que ce flambeau brillant répandra autour de moi sa clarté, et ce don est immortel, le mensonge et la flatterie ne viendront jamais souiller mes lèvres. Les compagnes de sirah ne pouvaient pas bien pénétrer le sens de ce discours. Elles regardaient leur compagne avec un étonnement qui touchait à l'ébahissement. Fabiola, elle aussi, s'arrêta interdite. Mais son orgueil reprit bientôt le dessus et elle s'écria avec colère. « Où avez-vous appris ces folies? Qui vous a enseigné à babiller de la sorte? J'ai étudié de nombreuses années et j'en suis venue à conclure que toutes ces idées d'une vie spirituelle et immortelle sont les rêves des poètes ou des sophistes et à ce titre je les méprise. » Est-ce que vous prétendez, malheureuse esclave, ignorante autant que vaine, en savoir plus que votre maîtresse? Croyez-vous vraiment qu'après votre mort, quand votre corps aura été jeté sur le monceau de corps des cadavres morts d'ivresse ou sous les verges, et destinés à être ensuite brûlés tous ensemble sur un bûcher banal, Croyez-vous que lorsque les cendres auront été mêlées et enfouies dans une fosse commune, vous survivrez encore comme un être distinct et que vous vivrez d'une existence libre et heureuse? Non omnis moriar, a dit un de vos poètes, répliqua modestement, mais avec un regard ardent qui étonna Fabiola, l'esclave étrangère. Oui, j'espère survivre à la mort même. Plus encore, je crois et j'espère que dans ce monceau de cadavres destinés au bûcher, et que vous avez si bien décrit, une main viendra et recueillera chaque partie de mon être. Un pouvoir souverain saura rassembler, fût-ce même aux extrémités de la terre, la poussière éparse qui a formé mon corps, et je serai de nouveau créé, non plus comme une esclave, non plus même comme vous, ni comme aucun être mortel, mais libre, heureuse, glorieuse, aimée et aimante à jamais. Ce sont là de grossières visions venues de l'Orient et qui ne conviennent pas à votre état. L'avenir vous en guérira. Dans quelle école avez-vous appris ces niaiseries? Je n'ai jamais rien lu de tout cela dans les auteurs grecs ou latins. Ces vérités m'ont été enseignées dans mon pays. À cette école, il n'y avait pas de distinction reconnue entre un grec et un barbare, un homme libre ou un esclave. Quoi ? S'écria avec colère la hautaine jeune fille. Vous ne vous contentez pas d'une existence idéale après votre mort ? Déjà, vous prétendez établir l'égalité entre vous et moi ? Qui sait ? Peut-être vous croyez-vous supérieur à moi ? Dites-moi donc à présent, sans essayer de déguiser votre pensée, si vous vous croyez, oui ou non, mon égal. Et elle se leva dans une attente fiévreuse. À chaque mot de la calme réponse de Syrah, son agitation croissait et ses passions semblaient s'agiter violemment. Très noble maîtresse, vous m'êtes bien supérieure en position, en puissance, en instruction, en intelligence, en tout ce qui embellit la vie. Vous êtes belle, charmante. Vos paroles, comme vos actions, respirent la grâce. Vous êtes au-dessus de l'envie et une créature aussi insignifiante que moi ne peut élever son désir jusqu'à vouloir rivaliser avec vous. Mais si je dois répondre à votre question positive... Elle s'arrêtait en hésitant lorsqu'un geste impérieux de sa maîtresse lui ordonna de continuer. C'est vous alors qui allez être juge de la question. Est-ce qu'une pauvre esclave, qui sent en elle le principe d'une vie intelligente, dont la durée sera immortelle et qui a pour patrie les cieux, dont l'idéal toujours poursuivi et jamais atteint est la divinité, peut se regarder comme inférieure en dignité morale et en élévation de sentiment à un être qui, heureusement doué, sans doute, au point de vue humain, n'attend pas une autre fin que ces jolis oiseaux chanteurs qui battent de leurs ailes les barreaux dorés de leur cage, sans espoir d'une liberté qu'il ne soupçonne pas ? Les yeux de Fabiola jetaient des éclairs. Elle se sentait pour la première fois de sa vie jugée par une esclave. Elle saisit le stylet de la main droite et en frappa presque aveuglément la noble fille. Syrah étendit instinctivement le bras pour protéger son corps et reçut la pointe du stylet qui, dirigée de haut en bas, lui fit au bras une profonde blessure. Des larmes jaillirent de ses yeux et allèrent retomber sur la blessure dont le sang s'échappait en ruisselant. Fabiola fut un moment honteuse de son action criminelle et se sentit encore plus humiliée devant son esclave par le tort qu'elle venait de se donner envers elle. « Allez, » dit-elle à Syrah qui étanchait le sang avec son mouchoir. « Allez et dites à Euphrosyne qu'elle pense votre blessure. Je n'avais pas l'intention de vous faire tant de mal. » « Attendez un moment, je veux comme compensation vous faire un présent. » Et saisissant au hasard un des bijoux qui était répandu sur la table, « Prenez cette bague, » dit-elle, « je vous dispense de tout service pour la soirée. » La conscience de Fabiola se trouvait amplement satisfaite. Elle réparait le mal qu'elle avait fait à Syrah en lui offrant un beau présent, elle était sans remords. Le dimanche suivant, dans l'église du pasteur, non loin du palais de Fabiola, au milieu des dons recueillis pour les pauvres, brillait une magnifique bague d'émeraude. Le bon prêtre Polycarpus pensa que cette riche offrande avait été faite par une dame romaine, mais celui dont l'œil radieux sut distinguer, parmi les riches au monde du temple de Jérusalem, le denier de la veuve, avait vu une pauvre esclave étrangère, aux bras ensanglantés, glisser le bijou précieux au milieu des aumônes des fidèles.